Ensemble, faisons entendre la voix des filles.
Je m'appelle Fati, j'ai 22 ans. J'ai été donnée en mariage très tôt, vers l'âge de 13 ans.
Ensemble, faisons entendre la voix des filles. Une émission proposée par l'Alliance Droit et Santé, avec le soutien de Équilibre et Population, la FIA Matassa, le RAIES et les radios partenaires. Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger sur un thème sensible. Sensible, oui, car il concerne beaucoup de nos jeunes filles au Niger. Environ 75% d'entre elles sont mariées précocement dans des régions comme Maradi, Zinder ou Tillabéri. 75%, c'est beaucoup. Si vous prenez 10 filles, c'est comme si 7 ou voire 8 d'entre elles étaient mariées avant d'être adultes. Des histoires de plus, mais diriez-vous des banales histoires? Peut-être pour certaines d'entre nous qui pensent que la place de la femme, c'est près de son mari, c'est dans un foyer. Hélas, il ne s'agit pas de femmes, mais d'enfants. D'enfants arrachés très tôt à la lumière de l'enfance, à la découverte du monde magique des chiffres et des lettres, et livrés au monde obscur du mariage précoce. Et ces filles, nos filles vivent la plupart du temps cette situation misérable en silence. C'est pourquoi, chers invités, nous avons décidé aujourd'hui de leur donner la parole pour qu'elles nous disent ce qu'elles vivent à travers les décisions que nous prenons, nous adultes. Même s'il est vrai que nous pensons la plupart du temps à leur bien, savons-nous réellement ce à quoi nous les condamnons pour la vie? Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes filles est un débat radiophonique initié par l'Alliance Droit et Santé et ses radios partenaires. Ensemble, faisons entendre la voix des filles.
Je m'appelle Fati, j'ai 22 ans. J'ai été donnée en mariage très tôt, vers l'âge de 13 ans.
Ensemble, faisons entendre la voix des filles. Une émission proposée par l'Alliance Droit et Santé, avec le soutien de Équilibre et Population, la FIA Matassa, le RAIES et les radios partenaires. À nos côtés aujourd'hui, Amina Mohamed, 14 ans, donnée en mariage à son cousin, et Hadiz Abdelkarim, âgé de 13 ans, donnée aussi en mariage forcé à un fiancé qu'elle ne connaissait même pas. Pour mettre en lumière leurs témoignages, les expliquer et chercher des solutions aux défis qu'ils posent, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Madame Hadiza du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Madame, bonsoir. Madame Mariama Moussa de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai également à mes côtés Monsieur Zouberou qui est directeur d'école. Bonsoir Monsieur Zouberou.
Bonsoir.
Monsieur Issac Amadou, vous êtes parent de jeunes filles. Bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Docteur Megari, vous nous venez du ministère de la Santé publique. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir également et merci à vous, cher public, d'être parmi nous pour échanger à travers ce débat radiophonique. Pour commencer, Madame Hadiza, vous travaillez pour le ministère de la Population. En tout cas, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, dites-nous, qu'appelle-t-on mariage précoce?
Selon la lignée des ONG, et des institutions nationales et internationales, nous qualifions de précoce tout mariage pratiqué sur une fille qui n'a pas atteint l'âge du mariage fixé à 18 ans par la Convention des droits de l'enfant et par l'État du Niger.
Alors, nous avons M. Zouberou, vous êtes directeur d'école. Pouvez-vous nous expliquer comment le mariage précoce affecte la scolarité des filles fréquentant les établissements scolaires ici au Niger?
La plupart donc, des filles qui sont mariées, donc, qui n'ont pas atteint cet âge, donc elles abandonnent les bancs. Deux fois, sont l'influence du mari, mais des fois, elle abandonne volontairement parce qu'elle ne peut pas suivre donc, le cursus scolaire malgré donc, l'autorisation des fois des maris parce qu'elles sont trop jeunes elles ne peuvent pas donc assimiler, donc concilier la responsabilité donc des femmes mariées et encore des titres. Donc elles sont obligées d'abandonner. Voilà comment ces mariages précoces donc affectent beaucoup les jeunes filles en milieu scolaire.
Et j'ai aussi sur ce plateau, docteur Magari, vous travaillez au ministère de la Santé publique. En tout cas, merci d'être parmi nous cet après-midi pour échanger sur cette question de mariage précoce. Alors, dites-nous, docteur, quelles sont les manifestations physiques les plus courantes du mariage précoce sur la santé des jeunes filles?
Je pense que le plus connu de tous, je pense que c'est la fistule qui est une complication en fait lié aux accouchements très difficiles. Et parce que quand la fille contacte une grossesse précoce, en fait la plupart du temps tout ce qui est précoce cause des problèmes, peut-être en dehors de l'agroalimentaire, mais en tout cas chez les humains ça cause énormément de problèmes parce que il y a une immaturité de l'organisme d'une manière générale de la jeune fille pour supporter la grossesse et à la fin il y a le problème des complications liées à l'accouchement qui peuvent aboutir à des fistules. Et vous savez bien, la fistule est une condition en fait qui fait la promotion de l'exclusion pratiquement des filles victimes de cette pathologie-là. Donc c'est la plus rencontrée. Et en même temps, je profite, tout ce qui est précoce en fait, le mariage précoce expose la jeune fille aussi aux maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est extrêmement important et je pense le plus grave, je pense que c'est le fait qu'on ait mis entre parenthèses leur enfance, qu'elles ne pourront plus rattraper. Donc je pense que c'est si on peut évaluer l'impact physique, on ne peut pas évaluer l'impact psychologique, je pense qu'il est plus dévastateur que tous les autres. On peut réparer une fistule, mais on ne peut pas réparer l'impact psychologique.
Voilà. Merci docteur. Madame Mariama Moussa, vous êtes présidente ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales qui accueille des jeunes filles en difficulté. Alors dites-nous, le mariage précoce mal vécu par ces jeunes épouses, phénomène exceptionnel ou constant, malheureusement courant au Niger?
C'est un phénomène constant et malheureusement très courant parce que aujourd'hui le Niger enregistre le plus fort taux de mariage précoce qui est de l'ordre de 75%. Donc c'est un phénomène qui mine notre société. Parce que le mariage précoce empêche la jeune fille de jouir de son intégrité physique et morale. Donc vraiment c'est un phénomène qui nous touche et il faut qu'ensemble qu'on lutte contre ce phénomène.
Merci Madame Mariama. Alors, Monsieur Isaac Amadou, merci de nous rejoindre. Vous êtes parent des jeunes filles. Ces mariages dits précoces sont-ils traditionnels dans notre culture ou assistons-nous ces derniers temps à une augmentation de cette pratique? Et si oui, pourquoi?
Bonsoir. Oui, bonsoir. En tant que représentante de l'association de parents des jeunes filles, ce mariage précoce n'est pas traditionnel. Et pourquoi il n'est pas traditionnel? Dès le début, les mariages précoces n'existent pas. C'est maintenant que les mariages précoces, ça existe.
Voilà, chers auditeurs, ce premier tour effectué, il m'appartient de présenter également notre public qui est venu nombreux. C'est sûr, on va entendre les applaudissements de ce public. Je disais que le public est nombreux à ce débat. En fin de mission, rassurez-vous, j'inviterai ceux qui le désirent à prendre la parole pour témoigner ou pour poser des questions à nos invités. Mais sans plus attendre, invitons la rue de Niamey à se joindre à nous. Ces derniers jours, nous sommes allés recueillir des points de vue des uns et des autres sur le mariage précoce. Voici notre micro-trottoir.
Wallahi wadi yanga hairno kan asiburi ima sambu da me dedan da bumboga kine hijandi imane ha iman sawarega ai gondu jiru wacin dubu ai wodai ga duhon kuna wanda yaze kai ne kan manto hijai ima kokari mengai da baba imi nan ima chau ima chau ima koilo kol imi na hali ga hama ima tono kito hije zamai wo hun ko da mantikan ai baba gabandi ai chele bobo yongon ai bere nya fo baba fo bun bogono kan asi ir kwara sai ai kai kwara nago kan aman duga chau hun kuna go fu su be kula ga kabana mano iro kan duga chau hun kuna ai wo ai siwoni te izi si hal abada wallahi wo sai izi hijandi dinga zan katare hun kunir ko te ai targa hay nongo kan ai go hun kuna ai izi kul hay ai izi kul higi amma kalini ngai boraka tare ingai no ingai boraka tare aka gari chau I chau gabani sun tungwai igi hindingai bunga jari
zanka kaini higende wo labe ku kanda te bora man bori bo ana doran du gumo
zanka wo boreze
zanka wo boreze damna in dunya ba funa sara ingo aku kora su bori biniye biniye no wone borkin dogo gati ningo gadi bora ganda noru nimene ne minizo sam kai genda sase bara amanto hige biniye de no ayo kai la saboga
to masal fono ko chagin fudo
ko chia to masala ka du masal bambata no dama ihin afode ko chia a indunya gora azabu gumo ifu ta azabu ngo asingi chelera asibu bu muradu feri aban
to gindan fono tayri here sai kan tayro ne wote
imhin suru imnam ko chia mo beri imnam tongi jiro ga
Chers auditeurs, chers invités, nous venons d'entendre les points de vue de Larry sur cette question de mariage précoce. Alors, comment expliquez-vous cette pratique, qu'elle soit si courante au Niger, vous qui êtes sur ce plateau, Madame Mariama?
Le mariage précoce est un phénomène très courant au Niger parce que l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales dispose d'un centre de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre, dont le mariage précoce.
Oui.
Et à ma connaissance, nous recevons des cas de filles mariées précocement ou bien des filles qui ont failli être victimes de mariage précoce. Et là, l'ONG n'hésite pas à agir, puisque nous travaillons avec le service de protection des femmes et des mineurs. Quand un cas de mariage précoce se présente à nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous écoutons le cas. Et si possible, nous convions d'abord les parents pour tenter une première médiation, voir vraiment si les parents peuvent renoncer à ce mariage-là. Au cas où le parent insiste vraiment à aller marier sa fille, l'ONG fait appel au service de protection des femmes et des mineurs. Et le service de protection des femmes et des mineurs convoque les parents de la jeune fille. Un PV est établi à partir de ce service-là. Si le parent insiste encore une deuxième fois, donc la responsable du service fait un PV qu'elle envoie chez le procureur de la République. C'est ça le dernier recours. Dès que les parents arrivent là-bas, ils sont obligés de dire non, nous renonçons à ce mariage-là.
Ces explications.
Et voilà comment nous travaillons.
Et ces explications justifient que cette pratique existe au Niger.
Cette pratique existe au Niger parce que les plaintes sont nombreuses au niveau des commissariats, des ONG, associations et même de la justice.
Et preuve à l'appui, Madame Mariama, oui. Nous allons à présent écouter les témoignages de Amina Mahaman. Elle est âgée de 14 ans, donnée en mariage à son cousin. Je vous inviterai par la suite à réagir. On va suivre donc ces témoignages de Amina.
Mon nom est Amina Mahaman et j'ai 14 ans. J'ai été donnée en mariage à mon cousin contre mon gré. Mon histoire commence à Yola, au Nigeria, où je suis née il y a 14 ans. Je vivais avec mes parents. Je suis l'aînée de ma famille et j'ai deux frères et sœurs. À l'âge de 5 ans, j'ai perdu mon père. À la mort de mon père, j'ai été confiée à mon oncle paternel résident à Dan Issa. Pendant 9 ans, je vivais avec mon oncle sa femme et son fils de la même maison. J'ai été inscrite à l'école coranique par mon oncle et en même temps j'étais aussi vendeuse ambulante pour le compte de sa femme, ma tante. Un jour, mon oncle décida de me donner en mariage à son fils âgé de 35 ans pour que je devienne sa seconde femme. Quand on m'a annoncé la nouvelle, j'ai refusé parce que je n'étais pas prête et je ne voulais pas de ce mariage. Mais mon oncle a insisté et a dit que, je le veuille ou non, le mariage aura lieu parce que c'était pour lui une question d'honneur. Moi, une jeune fille, renoncer à ce mariage avec son fils, c'était un déshonneur pour lui et pour toute la famille. Les préparatifs de la cérémonie du mariage ont continué à mon insu. C'est seulement 2 jours avant la date du mariage qu'une vieille femme m'a trouvé en train de manger et m'a mis le henné sans aucune explication. Je ne voulais pas de ce mariage, alors j'ai aussitôt lavé le henné pour démontrer mon désaccord par rapport à ce qui est en train de se tramer, à savoir me marier à mon cousin. En réponse à cet acte, mon oncle s'est mis à me battre avec un gros bâton en hurlant qu'il va même me tuer. Finalement, il décida de m'expulser de sa maison en me disant que je devais aller me prostituer à Firji, un village voisin. Toute ma famille était contre moi, surtout ma tante qui n'arrêtait pas de m'insulter. J'ai été obligée de quitter la maison cette même nuit vers 22h pour me réfugier chez le mentor de Naïssa. De peur d'être retrouvée par mon oncle, j'ai quitté le domicile de mentor pour errer dans les rues durant 5 jours. J'ai même reçu des menaces de mort de la part de ma tante et de mon cousin parce que je ne veux pas me marier, je suis trop jeune.
Monsieur Isaac Amadou, représentant des parents des jeunes filles, vous en tant que père de famille, que vous inspire ce témoignage?
En tant que père de famille, j'informe toute la population nigérienne à combattre ces fléaux.
Ça ne vous incite pas à prendre conscience que si vous avez une fille, avant qu'elle ait l'âge, vous la donnerez en mariage?
Ah non, je ne le fais pas. Okay. J'informe toute la population de combattre le fléau et j'informe les autorités de la 7e République à mettre un accent pour combattre cela.
Docteur Magheri, vous pouvez nous parler des séquelles physiques et psychologiques que risquent de rencontrer les jeunes filles qui vivent une situation similaire à celle de Damina? C'est un ajout, on peut toujours ajouter.
Oui, tout à fait. Je pense que ce que j'ai écouté est très pathétique, c'est poignant. Vous voyez bien, c'est un enfant qui est obligé, qui est condamné à errer de rue en rue, tout simplement parce qu'on a décidé quelque part on devrait la marier, alors que c'est vraiment un enfant et c'est pas ce que c'est. Je disais tout à l'heure, on peut réparer tout ce qui est physique, les fistules qui découlent des accouchements dystocyques liés à l'immaturité du bassin de la jeune fille, on peut réparer ça. Mais est-ce cette dévastation psychologique que la personne subit? Je ne crois pas si on peut réparer ça. C'est ça le plus grave. Et vous savez bien, c'est au pire des cas, ça finit par le décès maternel ou par une fistule. Donc, et selon les statistiques, en fait, nous avons, à la semaine qui vient de s'écouler, nous avons recensé depuis le début de l'année 328 cas de décès maternel. Et si on remonte la plus forte proportion des cas de décès maternel, on comprend entre cet âge de 13 et 15 ans, quand vous regardez, c'est à cet âge que, parce qu'elle n'est même pas consciente de son organisme, qu'elle ne connaît pas elle-même, elles ne peuvent pas aller faire les CPN, elles n'ont aucun suivi, et à la fin, ça finit par ou le décès ou la fistule, l'un dans l'autre, c'est une vie qui est gâchée.
Merci docteur. Et à toutes ces questions ou à toute cette situation, c'est de savoir que fait l'État du Niger pour lutter contre ce type de situation, Madame Hadiza du ministère de la Population.
Conscient de la gravité de ce phénomène, le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a fait de la lutte contre le mariage précoce une de ses priorités. Donc le ministère, en partenariat avec les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, a réalisé plusieurs actions, dont autres, des vastes caravanes de sensibilisation sur plusieurs thématiques, dont le mariage précoce, par une équipe pluridisciplinaire composée des ministères techniques, des organisations de la société civile intervenant dans le droit de l'homme et dans la lutte contre les violences faites aux enfants. En plus, les services déconcentrés du ministère de la Population, c'est-à-dire les directions régionales, interviennent aussi dans la lutte contre ces mariages à travers des campagnes de sensibilisation et la prise en charge des cas présentés. Le ministère renforce encore les capacités des acteurs étatiques, des organisations de la société civile, des autorités coutumières et religieuses pour la lutte contre le mariage précoce.
Merci, madame. Et si vous êtes témoin de ce genre de situation dans votre école, et comment faites-vous pour faire face à cette situation? Monsieur Zaberou, vous qui êtes directeur d'école, je vous renvoie la question.
Merci beaucoup. Vraiment, je viens d'entendre donc un témoignage. Moi, je le souhaitais que, avant l'émission, qu'on me concerte pour que moi aussi j'amène physiquement mes élèves victimes de ces cas. Peut-être avant de répondre à votre question, je vais raconter des anecdotes. D'abord, moi, j'avais un élève qui était en classe, donc ma première élève. Donc, la première de ma classe, Mounira, elle avait 13 ans. Et ils ont une famille vraiment tellement religieuse. Donc, en classe CM2, tu es venu me dire que voilà qu'elle va se marier. Elle dit, mais tu es folle. D'abord, tu es première de la classe. Ça veut dire quoi? C'est toi qui as dit non. Elle, c'est comme ça, dans leur maison, on ne dépasse pas 13 heures. Donc, à ce temps, je n'étais pas directeur de l'école. J'étais venu avec toute ma fougue que moi, je vais porter l'affaire à la justice. Donc, le directeur m'a dissuadé, non, c'est comme ça maintenant au sein de l'école. Elle a eu son examen, elle est passée au collège. Elle a attendu son premier enfant. Un jour, ma mémoire est bonne, c'était un jeudi. Elle est venue en classe, me saluer comme d'habitude, parce que tous les élèves qui viennent des fois, ils viennent nous rendre visite. Elle me salue, et puis bon, au lieu de quitter la classe, elle est là, je dis, bon, écoute, Mounira, est-ce qu'il y a un problème encore que tu veux? Elle dit qu'elle viendrait me parler. Juste, elle me fait comprendre que bon, nous sommes jeudi, et que le samedi, Inch'Allah, son mari va prendre un deuxième enfant. Imaginez donc, à 13, à 14 ans, elle atteint un enfant, elle sera encore co-épouse.
Et donc, vous n'êtes pas resté les bras croisés face à cette situation?
Cette situation, je pense que d'abord, les bras croisés, je pense que c'est pleurer. Peut-être elle pleure, moi aussi j'ai envie de le faire. Ça, c'est la première des choses. Vraiment, parce que c'est méchant. Parce qu'il faut s'exorciser. Nous sommes mis de côté parce que j'ai abandonné carrément le cours, je ne peux pas continuer. Je lui dis, écoute, Mounira, tu es en classe de 6e, tu as un enfant, maintenant tu n'as aucune solution. C'est scouter à tes études. Parce que les enfants que tu vas mettre au monde ont besoin de cette mère qui, à la fin du mois, tu vas sûrement trouver. Parce que ton mari, déjà, entre parenthèses, il a fini avec toi parce que déjà, il a pris une autre. Donc, moi, mon conseil, n'oublie pas tes études. Ça, c'est la première. Ça, je l'ai vécu. Et actuellement, malheureusement, Mounira n'a pas pu continuer. Elle en classe de 4e, elle a arrêté. Alors, deuxième anecdote, avec votre permission, c'est il y a un collège de la place ici à Talagué, aussi c'est un établissement franco-arabe. Cette année à la rentrée, au lieu que chez nous, le directeur de l'école, c'est le conseil des maîtres. Dans cet établissement, cette année, c'était le conseil des parents. Parce qu'il y avait 50, au-delà de 50 filles qui étaient venues en grossesse avancée. Alors, le proviseur s'était posé la question, qu'est-ce qu'il peut faire? 50, je vous assure. C'est-à-dire, c'est mettre de côté tout et faire appel aux parents pour trouver une solution. Je vous parle d'un établissement franco-arabe. Parce que maintenant, l'État ne condamne pratiquement pas ça. Avant, tu ne peux pas tomber enceinte en classe de 6e jusqu'en classe de 3e, je pense si ma mémoire est bonne. Mais maintenant, c'est pas tomber enceinte même, on favorise même le mariage en classe de 6e. Et voilà que la situation qu'il a dans, au niveau de la rentrée. Toutes ces jeunes filles, comment résoudre ce problème? C'est devenu vraiment, durant tout le mois de la rentrée, un problème au sein de l'établissement. Chez nous, les enseignants, donc, le premier recours, c'est les parents. Mais si c'est les parents qui autorisent ça, parce que nous n'avons pas d'autres recours, c'est l'État avant. Mais l'État aussi ferme les yeux là-dessus, donc je ne sais pas maintenant c'est comment on va faire.
Justement, toujours dans cette lancée. Alors, SOS, qu'avez-vous l'habitude de dire à la société toute entière pour la sensibiliser sur la question, mais également la convaincre d'abandonner cette pratique que le mariage précoce, Madame Maria Moussa?
L'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales a mené plusieurs séances de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire sur les méfaits du mariage précoce. Nous mettons l'accent sur les conséquences néfastes que peut causer le mariage précoce. D'abord, c'est une pratique néfaste. Elle constitue une violation du droit de la jeune fille, à jour de son intégrité physique et morale. Elle porte à l'atteinte de la santé de cette jeune fille-là. Parce qu'en mariant une jeune fille précocement, non seulement elle peut contracter une grossesse précocement, il peut y avoir des décès de couche, elle peut avoir au finish la fistule obstétricale. Et la fistule obstétricale, tout le monde sait qu'elle a ses conséquences aussi, dont l'exclusion sociale, la stigmatisation ou l'arrêt de l'activité sexuelle, la répudiation. Parce que quel mari ne veut vivre avec une femme qui sent mauvais? Et en dehors de ça, nous projetons des films, tels que le film Hasia, Amour ou Châtiment. Et tout celui qui visionne ce film-là peut en tout cas se donner une leçon de morale et dire carrément non au mariage précoce. Ou bien quand je verrai quelqu'un marier sa fille précocement, je n'hésiterai pas à aller le dénoncer. Voilà.
Le public est également avec nous dans le cadre de ces débats, l'un ou l'autre. En tout cas, je vais demander à l'une ou l'autre quand même d'intervenir sur ce témoignage, sur ce que nous sommes en train de parler, le mariage précoce. Qui aimerait prendre la parole? On va passer le micro au public. Alors, qui aimerait participer pour ce témoignage surtout? Madame, bonsoir, présentez-vous.
Bonsoir, c'est Dr Laouli Essat Abdou. Je suis la secrétaire générale adjointe du ministère de la Population, Promotion de la Femme et Protection de l'Enfant.
Oui, madame.
Je voudrais intervenir sur le phénomène du mariage précoce. Vous savez, ce phénomène a toujours existé. Mais avant, il y avait des normes. Quand on célébrait le mariage, il n'était pas consommé. Même si la fille vient dans sa belle famille, elle est sous la coupe de sa belle-mère. Elle partage le même lit que sa belle-mère jusqu'à l'âge de la maturité. Malheureusement, avec l'évolution, on constate que dès qu'il y a célébration du mariage, il est consommé. Et c'est pour cela qu'on assiste à toutes les conséquences que les conférenciers ont décrites. Deuxième aspect, c'est par rapport aux conséquences. Je ne reviendrai pas sur les conséquences sur la santé, sur les effets psychologiques, mais il y a un autre aspect, c'est la pauvreté. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce sont les filles qui sont issues des familles vulnérables qui sont exposées au mariage précoce. En les exposant au mariage précoce, on les empêche de continuer leur scolarité, on les empêche d'apprendre un métier et elles se retrouvent dans un foyer où elles n'ont aucune activité, où elles sont à la charge, donc ce qui perpétue cette pauvreté. Non seulement ses parents étaient pauvres, elle rentre dans la pauvreté, elle a ses enfants dans la pauvreté, et ces enfants-là n'auront peut-être même pas la chance, eux aussi, d'aller à l'école. Et le cercle continue, et au-delà de la famille, c'est la communauté, et au-delà de la communauté, c'est tout le pays qui perd des bras valides qui peuvent s'investir dans le développement économique. Je m'arrête là et je vous remercie.
Merci à vous, madame. Vous êtes donc secrétaire générale adjointe au ministère de la Population. Alors, vous autres, vous n'êtes pas concernés par cette question de mariage précoce? Oui, madame. Merci. Abdou, on va passer le micro à madame.
Je suis madame Garou Maïmouna de la coordination des ONG Association féminine du Niger Congafen. Une des principales actrices, et surtout parfois la mère, elle pense qu'en donnant mariage sa fille à un riche commerçant, elle mettra fin à la pauvreté de toute la famille, alors qu'elle n'a pas pensé aux conséquences néfastes et qu'elle a mis en danger donc toute la vie de la fille pour elle et pour toute sa progéniture. Donc désormais, il faut penser à inviter les femmes, à inviter les mères et à inviter d'autres ONG, associations féminines aussi qui militent dans le domaine. Merci.
Oui, merci donc. Oui, une intervenante, madame.
Merci. Oui. Moi, c'est Amina Nyandou. Je suis présidente par intérim de l'Association des professionnels africains de la communication, APAC Niger. Quand il y a des questions comme ça, en tout cas, j'aimerais qu'on oriente le débat sur non pas sur la question âge, mais sur la question est-ce que les filles ont un organisme qui peut supporter le mariage, puisque on peut éviter certains braquages au niveau de la société. En parlant d'âge, on peut rencontrer des filles à 14 ans qui sont des femmes pleines, qui peuvent se marier, alors qu'on peut aussi rencontrer des filles qui ont plus de 20 ans qui ne peuvent pas se marier puisque leur organisme ne peuvent pas se supporter des conditions de mariage. Moi, je pense qu'en orientant le débat vers ce sens, on peut, dans un premier temps, avoir des alliés pour pouvoir amener la question de l'âge, puisque il faut pas qu'on perde de vue nos réalités sociales, puisque comme la SG l'a dit, le mariage précoce a toujours existé, mais il y avait des normes. Ce sont ces normes-là qui sont perdues. Donc, en faisant une sensibilisation dans un premier temps pour créer des alliances stratégiques, je pense qu'on peut arriver au fil, puisque c'est un travail de longue haleine, hein, au fil du temps, à ramener la conscience des parents sur ce phénomène-là. Merci.
Merci à vous. Je vois des doigts qui s'élèvent. On va revenir juste, permettez-moi, de vous proposer un autre témoignage pour que vous soyez davantage imprégné de la question. En tout cas, je pense que ce témoignage dont je m'en vais vous proposer, c'est celui, bien sûr, de Hadis Abdul Karim, qui est âgé de 13 ans à peine, donné un mariage forcé à un fiancé qu'elle ne connaissait pas. Voici le reportage.
Je m'appelle Hadis Abdul Karim. J'ai 13 ans. J'étais en classe de CE1. J'ai quitté Douga, Kegel, Madarumfa, mon village natal, pour échapper à un mariage forcé et précoce. Depuis ma naissance, j'ai été léguée par mes parents au rang d'une fille énupère, c'est-à-dire j'ai été laissée sans grands intérêts dans ma prise en charge, ce qui explique le non-attachement affectif à aucun parent. J'ai été inscrite à l'école à l'âge de 7 ans. 3 ans après, mon père m'a retirée de l'école pour m'amener paître les animaux dans la brousse de Dakoro, à 200 km environ de mon village natal. Dans cette brousse, je me suis égarée 3 jours durant. Si ce n'était la vigilance de notre berger, je serais morte. À 13 ans, mon père me proposa un mariage avec quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est suite à l'exigence et à l'insistance de mon père que je fugue pour aller à Maradi, me réfugier chez ma tante paternelle. Après une semaine, j'apprends que les menaces de la célébration du mariage courent toujours et que ma tante ne peut plus rien faire pour me protéger. C'est ainsi que je fugue encore, mais cette fois-ci, je me suis retrouvée dans la rue. Finalement, j'ai trouvé refuge chez un marabout avant d'être référé au commissariat de police. Le même jour, j'ai été remis au CGIP pour qu'il m'aide à sortir de ma désolation et de pouvoir reprendre le chemin de l'école que j'aime tant. Le CGIP a réussi à trouver mon père par l'intermédiaire de ma tante. Arrivé au Cégep, mon père a expliqué toutes les raisons pour lesquelles il voulait me marier, qu'il était le seul responsable de mon sort. Après un long entretien avec les jeunes du Cégep, il a enfin fini par céder et accepter que je reprenne le chemin de l'école. Sa seule réserve émise était quelle stratégie adopter pour faire comprendre sa décision de renoncer au mariage aux parents de mon fiancé. De retour au village, les parents de mon futur mari sont venus me chercher pour m'amener avec eux et l'affaire a de nouveau ressurgi parce qu'ils estiment que mon père n'est pas sage.
Ce témoignage, une ou deux réactions du public. Monsieur, vous avez levé votre doigt tout à l'heure. Le micro à vous, alors on va...
Moi, c'est Monsieur Mamadou Adamou. Je suis de l'ONG Lahir Moumtassa.
Oui.
J'ai une question au docteur qui est présent. Donc, ma question, c'est que le docteur, moi, je voulais savoir l'âge idéal que la jeune fille peut porter une grossesse.
Qu'elle soit mariée ou non.
Qu'elle soit mariée ou non.
Une autre réaction là-bas, oui, deux réactions. Pour nous permettre d'avancer.
Bien, merci. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Je suis Dr Daoud Ali. Je suis sociologue de formation, enseignant chercheur. Et il se trouve aussi que je suis le directeur de cabinet de la ministre en charge des questions de population. Moi, j'ai écouté effectivement avec un certain intérêt et puis même beaucoup, j'allais dire, pas d'enthousiasme, mais d'étonnement, certaines interrogations. Moi, je pense qu'il faut savoir que la société nigérienne, dans la société nigérienne, le mariage précoce est de source séculaire. Ça a toujours existé. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la consommation précoce qui a fait que les normes ont changé. Et on devrait aussi comprendre que dans le contexte nigérien et d'une manière générale en Afrique, le mariage, ce n'est pas une affaire d'individu. C'est une affaire de famille. Par conséquent, lorsque on veut venir à bout par rapport à ce phénomène, il faut revoir les normes de cette société-là. Tout à l'heure, en rentrant, j'ai vu certaines des mesures qu'on envisage de prendre, notamment permettre à la jeune fille de se défendre. Mais attendons-nous à un autre revers de la chose. Parce que lorsque ces jeunes filles vont prendre la parole et se positionner, elles seront dressées contre leurs propres parents. C'est aussi une autre gestion qu'il faut faire d'un autre conflit qu'on va créer. Donc, trouvons d'autres mécanismes pour permettre pas d'éradiquer ce phénomène. C'est un vécu social. Donc, peut-être ça va, on va arriver à bout à ça, mais éradiquer tout de suite, à mon avis, il faut beaucoup, beaucoup réfléchir. Mais une telle mesure, permettre à la fille, c'est bien que la fille parle, mais en même temps qu'elle parle, les autres vont dire, voilà, c'est un signe d'une mauvaise éducation. Comment cette fille-là, son père décide, et elle élève la voix pour dire ça et ça. Pourtant, elle vit cette chose dans la chair. Je suis d'accord, et je le partage, je l'enseigne, que physiologiquement, psychologiquement, socialement, économiquement, un enfant de 15 ans n'est pas mûr pour être dans le ménage.
Merci à vous, docteur. Sans vous couper la parole, il y a un intervenant derrière vous. Alors, oui, bonsoir.
Bonsoir, moi c'est Sayoub Ahlidou. Oh, oui. Je suis au ministère de l'Éducation nationale. J'ai une question à poser. Est-ce que, je sais que en matière de violence faite en milieu scolaire, à l'endroit du genre, il y a quand même des anciens textes qui étaient là, qui régissent, qui pouvaient permettre de protéger les jeunes en milieu scolaire, notamment les filles aussi qui étaient violentées. Mais est-ce que au niveau du ministère de la protection sociale, est-ce qu'on peut nous dire s'il y a des textes? S'il n'y a pas, moi je les invite le ministère quand même à concocter et à voir comment transmettre au niveau de l'État pour que on puisse au moins dire qu'une fille tel âge, l'âge c'est 18 ans, on sait. Mais il faut réglementer ça par des textes. C'est ça que je demande. Est-ce qu'il y a l'existence de ces textes-là? Je pose la question au ministère. Et aussi peut-être madame que je vois, qui est quand même un peu éhulée dans l'affaire. Merci bien.
Merci.
Merci. Oui, madame.
Afin de donner un cadre législatif aux conditions du mariage, le gouvernement nigérien a défini par la loi l'âge légal du mariage. L'article 44 du Code civil interdit le mariage avant l'âge de 18 ans pour les garçons et 15 ans pour la fille, et exige le consentement des deux époux. Toutefois, s'agissant des mineurs, ce code prévoit que le consentement des ascendants est nécessaire. La législation nigérienne conforte ainsi la tradition selon laquelle le mariage est avant tout une affaire de famille, comme l'a si bien dit monsieur le directeur de cabinet de la ministre. Donc, une affaire de famille où la vie des tierces prime sur celui des intéressés. Voilà ce que dit l'article 44 du Code civil.
Madame, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question, si des textes existent bel et bien?
Les textes existent bel et bien. Au niveau du cadre juridique national, donc nous avons le Code civil, le Code pénal, il y a l'ordonnance 99-11 portant juridiction des mineurs, il y a aussi le Code de l'enfant et la loi de la protégeant la jeune fille qui n'ont pas été adoptées.
Une réaction de l'autre côté avant de permettre à docteur de répondre. Oui, Issa.
Oui. Merci. Je m'appelle Issa Sadou, je suis chargé de programme au Fonds des Nations Unies pour la population. Je voulais juste réagir sur deux choses. Première chose, c'est par rapport aux conséquences. Je pense que on l'a pas dit assez ou je l'ai pas entendu dans cette salle. La première conséquence, c'est la mort. La première conséquence, en fait, c'est la mort. Tout à l'heure, ce que docteur Daouda disait, c'est par rapport aux filles à qui on apprend à dire non. En fait, dans ce que nous faisons, nous leur apprenons à négocier. Parce que parfois, le silence de la fille est interprété différemment par les parents. Quand la fille ne parle pas, quand on lui fait la proposition et qu'elle ne dit rien, les parents interprètent selon leurs intérêts. Donc nous, on apprend aux filles à négocier pour retarder ou bien dire que plus tard, elles vont se marier.
Merci, voilà. Merci Issa. Alors, docteur, quel est l'âge qu'il faut pour une jeune fille, qu'elle soit mariée ou non, de porter une grossesse? C'est bien cela la question.
Bon, je pense que en fait, c'est un terrain assez difficile parce que c'est le législateur, vous avez entendu, il y a une loi sur ça qui dit que voilà, il est interdit pour le cas des jeunes filles en dessous de 15 ans et pour les garçons en dessous de 18 ans. Mais biologiquement, on pense qu'à partir de 18 ans, que le bassin de la jeune fille est suffisamment mature pour lui permettre de conduire à bien une gestation. Ça, on pense que 18 ans est un âge, en tout cas, suffisamment raisonnable pour qu'une fille puisse mener à bien sa grossesse. Voilà ce que je peux dire.
Voilà, nous sommes loin de tout dire sur cette question du mariage précoce. Il est important de préciser que selon le Fonds des Nations Unies pour la population, si l'on n'agit pas pour inverser la tendance, ce sont plus de 140 millions de filles, dont 50 millions de moins de 15 ans, qui seront mariées entre 2011 et 2020, soit 39 000 par jour dans le monde. Au Niger, nous ne sommes pas en reste et avons notre lot de responsabilités, comme ces échanges l'ont montré. Toutefois, certains programmes portés par l'État, les partenaires internationaux ou des associations locales relèvent le défi, comme par exemple l'association SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales que nous sommes allés rencontrer pour connaître davantage leur travail. Un reportage signé Aboubakar Munkela.
La prise en charge des jeunes filles victimes de mariage précoce pose problème au Niger. Laissées à elles-mêmes, ces filles sont obligées de se résigner à leur tragique sort, car n'ayant pas d'autre alternative. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a mis sur pied un centre pour la prise en charge des victimes de violences basé sur les genres, afin de venir en aide à ces filles. Monsieur Alzouma Traoré Ibrahim, chargé de programme et responsable du centre, nous explique les mécanismes de prise en charge et le traitement de cas de mariage précoce qui arrivent au centre.
Généralement, les filles qui viennent ici, c'est des filles qui ont, par exemple, fugué de chez elles parce que elles étaient sur le point d'être mariées, donc elles quittent la maison. Ou alors, deux fois, c'est un signalement, une personne qui est témoin, par exemple, d'un projet de mariage où c'est une jeune fille qui est sur le point d'être mariée, donc elle nous saisit. En ce moment-là, nous, on intervient. Et si on essaie de vérifier si réellement c'est vraiment un mariage précoce. Et par rapport à ça, nous, on peut invoquer le fait que c'est sa vie qui est en danger pour pouvoir faire agir la force publique.
L'arsenal juridique dont dispose le Niger permet de défendre les jeunes filles victimes de mariage précoce, mais il faut que les professionnels de justice soient davantage formés sur l'existence de ces textes, selon M. Alzouma Traoré Ibrahim.
Les professionnels aussi donc de la justice, eux aussi, ils ont besoin de fois d'être formés. Les formations, les sensibilisations, il faut aussi les faire à leur endroit. Parce que c'est pas parce qu'on est magistrat qu'on est censé connaître tous les textes. Donc, des fois, il y a ce problème. Il y a un problème de vulgarisation des textes. Donc, il faut que les gens sachent que par rapport à telle situation, j'ai aujourd'hui un texte qui me permet vraiment de faire éviter à une famille ou bien à une personne vraiment des conséquences fâcheuses d'un acte de foi qu'on fait sans pour autant qu'on ait une information là-dessus.
L'ignorance semble faire partie des causes qui poussent les parents à donner très tôt leurs enfants en mariage. Mettre davantage l'accent sur la sensibilisation des parents pourrait permettre de réduire considérablement les cas de mariage précoce.
Il y a beaucoup de cas ici, quand on convoque les parents, on leur pose le problème, et ils finissent par comprendre qu'ils étaient en erreur et ils reviennent par rapport à cela. Parce que vraiment, c'est prendre le temps d'expliquer à la personne l'acte-là que vous voulez faire. Certes, vous voulez que votre fille se marie, mais est-ce que un père va vouloir aussi voir sa fille dans une condition, par exemple, être fistuleuse, ou bien créer les conditions pour que sa fille fugue, quitte la ville et rentre dans la nature. Et aujourd'hui, il n'y a aucun père qui ne peut pas être sensible à cela. Donc moi, je pense qu'il faut toujours redoubler d'efforts par rapport aux sensibilisations, par rapport aux informations qu'il faut donner à la population pour qu'ils puissent vraiment se ressaisir.
Le chemin est long, mais l'espoir est permis, car la lutte commence à donner timidement des fruits.
En 2013, nous avons en tout cas enregistré beaucoup de cas de mariage précoce, et j'ai constaté que cette année, en 2014, en tout cas les deux trimestres qui viennent de s'écouler, on a constaté vraiment que le taux de mariage précoce est en train de se réduire. Devenir. Si la tendance se précise, je pense que dans un avenir proche, nous allons pouvoir en tout cas diminuer de façon très sensible en tout cas le taux de mariage précoce au Niger.
L'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales a compris très tôt l'importance de mettre en synergie les efforts de toutes les parties prenantes afin d'arriver à un résultat de zéro mariage précoce. Le rêve d'avoir zéro mariage précoce s'est permis. Et comme disait l'autre, quand on rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Mais quand on rêve à deux, c'est le début de la réalité.
Monsieur Zaberou, les études montrent que l'éducation des filles réduit fortement les risques de mariage précoce. Plus les filles suivent des études, moins elles ont la chance de se marier trop tôt, je vais dire. Alors, que conseillez-vous de faire pour garder le plus grand nombre de filles possible à l'école?
Je pense que pour répondre à cette question, c'est d'amener les filles à aimer l'école et à travailler. Une fille qui redouble trop, surtout quand elle est dans une famille pauvre, est plus susceptible d'être proposée en mariage. Donc, il faut donc amener les filles à se faire des aspirations pour le futur. En matière de qualité professionnelle, cela donc aidera les filles à travailler plus et être peut-être une étoile pour ses parents. Donc, je pense que voilà ce que je vais répondre par rapport à ça.
Docteur Megari, des milliers de parents vous écoutent à travers le Niger. Que pouvez-vous leur dire sur les risques qu'encourent leurs filles à se marier alors qu'elles ne sont encore que des enfants, je veux dire?
Absolument, je pense que c'est extrêmement important qu'ils le sachent. Nous, on parle de décès, quelqu'un a parlé, la première conséquence est la mort.
il faut pas aller d'une manière extrémiste, mais je pense que le décès effectivement fait partie du tableau malheureusement. Le décès d'ailleurs de deux personnes, et la fille mère et le nouveau-né, parce que étant donné que le bassin est immature, en fait, je reviens un peu sur les gens qui posent le problème de port de grossesse. En fait, c'est pas le port de grossesse qui cause problème, mais c'est l'accouchement qui cause problème. Ah oui, parce que c'est la structure osseuse qui n'est pas mature pour pouvoir permettre le passage de l'enfant, un accouchement à terme correct. Donc voilà le gros problème. Et donc on peut avoir perdre sa fille et son petit-fils. Donc on revient à zéro. Et je pense le plus. Et puis il y a la fistule qui est là, qui est une complication. On peut avoir une personne handicapée à vie. Parce que quand la fistule, c'est la communication entre la vessie et le vagin, ou entre le rectum et le vagin, ou la communication entre les trois. Donc, c'est vraiment, comme disait madame tout à l'heure, c'est la source essentielle de répudiation, de la stigmatisation, de l'exclusion. Je pense que personne ne veut voir sa fille dans une situation pareille, surtout s'il pense qu'il est le principal responsable de cette situation. Je pense qu'il faut qu'il est parents réfléchissent et qui puissent donner la chance à leurs filles. Elles sont aussi valables que les garçons. Voilà.
Voilà, ce débat, ensemble, faisons entendre la voix des jeunes filles touche à sa fin. Un débat radiophonique initié par l'Alliance Droit et Santé et ses radios partenaires. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je voudrais remercier également tous ceux qui ont aidé à l'organiser, l'Équilibre et Population, la FIA Matassa, le RAES. Chers invités, chers publics, chers auditeurs, ensemble, nous sommes plus forts. C'est en prenant le temps de discuter et de nous écouter que nous trouverons les solutions à nos problèmes sans pour autant renier nos traditions. Ne faisons pas la sourde oreille. Écoutons ce qu'ont à dire nos filles, leur malaise et leur détresse, car ce sont nos petites filles qu'elles éduquent et l'avenir du Niger qui est entre leurs mains. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, le futur du Niger, je ne peux l'imaginer autrement que radieux. Alors soyons à l'écoute les uns des autres. C'est, je l'espère, le chemin que ce débat a emprunté devant vous ce soir. Merci de nous avoir suivis. Ensemble, faisons entendre la voix des filles.
Je m'appelle Fatih, j'ai 22 ans. J'ai été donnée en mariage très tôt, vers l'âge de 13 ans.
Ensemble, faisons entendre la voix des filles. Une émission proposée par l'Alliance Droit et Santé, avec le soutien de Équilibre et Population, la FIA Matassa, le RAES et les radios partenaires.